Now recording, l'épisode de ce soir sera dédié à l'avant-match PSG-Barça, le match, on va dire, le plus attendu de ces quarts de finale de Ligue des Champions. L'équipe du jour que vous commencez à connaître est composée de Médard et Gurvan. Comment vous allez, les frères? Médard, ça va?
Ça va, tranquillou. Hein.
Nickel.
Ouais.
Bon début de semaine, j'ai vu que t'avais fait un peu ton retour sur Twitter. T'as repris le compte.
C'est pas mal,
on le dit pas, ça reste secret. Et puis Gurvan, comment tu vas, mon frère?
Bah écoute, super, hein, super. On sort enfin des matchs de sélection. On va retrouver nos clubs, notre club favori, notre club aimé, notre club qui nous fait souffrir, le Barça.
Le Barça, et bonne nouvelle, première trêve depuis très longtemps, on n'a aucun blessé. Donc on en reviendra, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, cette équipe ne sera pas seulement composée de Médard et Gurvan, car nous recevons aujourd'hui Mika Marciano, que vous pouvez connaître, car c'est l'animateur aussi des réservistes. Il est très actif sur les réseaux sociaux, notamment aussi Twitter. Vous pouvez l'ajouter au son ad, c'est Mickaël avec un K tiré du bas Marciano, qui nous donnera aussi son avis sur ce match. Mika, comment tu vas?
Salut les amis, comment va-t-on?
Cette voix qu'on reconnaît depuis... ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant, hein, l'espèce. Ça fait...
Écoutez, déjà, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Moi, c'est toujours un plaisir. Et en plus, chez vous, voilà, hein, vous savez que... Peu importe ce qui m'arrivera plus tard, même si demain il y a une explosion ou quoi que ce soit, vous, c'est toujours la famille, c'est toujours la maison. Donc dès qu'il y a une invitation, je suis le premier à répondre présent. Et donc encore merci beaucoup de me recevoir. C'est la première fois sur le podcast en plus, première fois. Donc voilà, on va donner beaucoup de force, on va partager tout ça aussi à fond. Et on va parler évidemment de ce qu'on aime tous, de la grande passion, c'est important.
La grande passion. En tout cas, Mika, ça fait super plaisir de te recevoir depuis le temps. On en parlait nous déjà avec Gurvan, mais depuis le temps qu'on voulait te recevoir, ça fait plaisir. Mais bon, bref, vous connaissez la suite, les amis. Moi, c'est Bédier. Vous écoutez cet épisode de Messe, qu'est un talk. La saison du Barça et du PSG va commencer, on va dire, va commencer à partir de maintenant, on va dire. Parce que pour moi, en tout cas, le Barça entame sa saison. Est-ce que vous avez l'impression de voir un nouveau Barça depuis quelques semaines, notamment depuis la victoire contre le Napoli et cette qualification en quart de finale, Gurvan?
Bah écoute, oui, un nouveau Barça qui reste fébrile, comme je l'ai toujours dit, mais un Barça qui reprend confiance de par ses bons résultats. Mais un Barça qui, au final, n'a plus le choix, puisqu'à chaque fois, on entend en conférence d'après-match, il nous reste la Ligue des Champions, on y croit. La Liga aussi, certains continuent d'y croire. Il faut y croire, bien sûr, même si ça va être très compliqué. Mais oui, il y a un nouveau Barça, de bonnes choses que j'arrive à voir, des individualités qui retrouvent une certaine confiance, d'autres qui arrivent à s'exprimer davantage. C'est très intéressant. C'est pour moi encore trop fébrile pour la Ligue des Champions, pour ça que j'ai hâte de cette double confrontation. Mais oui, je vois une amélioration.
Super. Et tu n'as pas l'impression non plus d'avoir un nouveau Barça, tu vois. Si tu fais le comparatif entre décembre et maintenant, moi j'ai l'impression clairement de voir un nouveau Barça, de voir un Barça qui, pour moi, commence sa saison là maintenant. T'as pas cette impression-là?
Un nouveau, je trouve le mot un petit peu fort. Ouais. Je le trouve un petit peu fort. Je vois un meilleur Barça. Je vois un Barça qui reprend confiance, qui s'améliore. De là à dire nouveau, je sens encore une équipe friable, capable d'être rapidement perturbée, se mettre en difficulté. Physiquement, j'ai hâte de voir s'ils sont capables de tenir plus d'une mi-temps, ce qui est toujours notre problème que j'ai pointé du doigt tout au long de la saison. Mais oui, je note une nette amélioration. Ça, c'est indéniable.
Et toi, Béda?
Bah écoute, un nouveau Barça, comme il a dit, Gurvan, c'est un peu fort comme terme. Je vais me répéter par rapport à ce que je dis habituellement, mais même si c'est de plus en plus, je me laisse pas emporter par ce que je vois. C'est bien, mais je vois toujours une équipe qui a du mal physiquement, et moi c'est vraiment le problème principal, parce que techniquement, tactiquement, je trouve pas qu'on soit à la rue, loin de là. Mais physiquement, c'est là où ça me fait peur. Il paraîtrait que certains cadres aient demandé, en ayant passé les huitièmes, de vouloir intensifier un peu les entraînements, etc. J'espère que ça va se ressentir sur le terrain et que c'est pas du pipeau. Maintenant, un nouveau Barça, non. Une nouvelle saison, oui. Une nouvelle saison, oui, parce que ce match-là, il est crucial. Ça peut être une nouvelle saison comme ça peut être une fin de saison. C'est-à-dire que là, tu passes le PSG, t'es en confiance. Parce que derrière, tu sais que voilà, le tirage, sans négliger, hein, t'as un Dortmund qui était peut-être le tirage, entre guillemets, le plus simple, et t'as un Atlético que t'as fouetté chez eux 3-0 il y a 2 semaines. Donc, forcément, t'as une nouvelle saison et après, sur une finale, tout peut se passer. Enfin, on va pas commencer à écrire des scénarios et tout. Il faut déjà passer le PSG. Mais c'est un match crucial qui peut vraiment faire quelque chose, qui peut vraiment créer quelque chose de très grand. On ne sait pas ce qui peut se passer, c'est la grande passion, comme il l'a dit, tu vois. Donc voilà, après un nouveau Barça, encore une fois, c'est léger, je trouve. On a quand même joué un Napoli qui était très très faible, et un Atlético qui sortait quand même de 120 minutes, un jour après nous aussi, sans quand même beaucoup de joueurs, même si nous aussi, nous en manquait, c'était quand même des joueurs cruciaux qui leur manquaient. Donc j'attends encore de voir, c'est le PSG le vrai test pour moi.
Ok. Toi, Mika, ton opinion sur ce Barça-là, avant la victoire contre Napoli et puis maintenant?
Ah, écoute, moi, je vais te dire la vérité, ça n'a pas changé. Je vous trouve quand même optimiste. Quand on parle aujourd'hui, comme tu l'as posé dans ta question, de la saison qui commence maintenant, moi, désolé d'avoir des standards assez hauts lorsque je juge le Barça. Mais je ne peux pas dire que la saison va commencer après une humiliation en finale de Supercoupe d'Espagne et après une élimination en Coupe d'Espagne. Par rapport au Barça, par rapport à ce que cette équipe est capable d'aller chercher, bien sûr, on avait revu tous nos critères à la baisse dernièrement et c'était normal après ce qu'avait fait le fameux Impostora au sein de ce club. On savait qu'il fallait qu'on reparte de tout en bas et qu'il fallait que petit à petit ça revienne, sauf que cette saison on a remporté un titre l'année dernière où c'était pas vraiment avec la manière, on va pas se le cacher, et donc derrière cette saison avec l'équipe, avec l'effectif, on avait de beaucoup plus grosses ambitions et on a été très déçus depuis le début de la saison sur le jeu. Et aujourd'hui, moi je suis d'accord, c'est pas un nouveau Barça, c'est un Barça qui va un peu mieux, mais un peu mieux uniquement grâce à son centre de formation, parce qu'aujourd'hui, les seules, on va dire, satisfactions pour l'instant de ce Barça, mis à part un Gundogan qui revient un peu mieux, un Lewandowski qui plante un peu plus, et un Cancelo qui est à, on va dire, sur sa saison, les seules satisfactions qui nous font peut-être espérer qu'on peut voir quelque chose du Barça sur cette fin de saison intéressante, c'est Lamine Yamal, c'est Koubarsi, c'est l'arrivée de Fermín López au milieu de terrain pour compenser les absences de De Jong et de Pedri. Mais sinon, très clairement, on a énormément de carences dans ce Barça. On a un Barça qui est toujours malade. Moi, ce n'est pas une victoire contre le Napoli, alors que dans un fameux match aller où tu es censé repartir du San Paolo, du stade Diego Maradona maintenant, avec au moins 3 buts d'écart, pardon, et que tu fais match nul, et qu'au match retour, tu mènes 2-0 très vite, et que tu te fais reprendre, on pourra en parler tout à l'heure. C'est un des gros problèmes du Barça cette saison. Dès que tu fais le plus dur dans un match, tu recules et tu te laisses acculer. On l'a vu contre Villarreal. Lorsqu'ils sont menés au score, ils arrivent à revenir. Dès qu'ils reviennent, ils reculent. Moi, aujourd'hui, très clairement, dans cette double confrontation-là, pour moi, le PSG est largement favori par rapport à ce qu'on voit. Peut-être pas largement, mais est favori. Et le Barça va devoir faire preuve surtout de beaucoup plus de concentration pendant les matchs. Et c'est pour ça que je ne parlerai pas aujourd'hui de nouveau Barça, parce que je ne pense pas que ce Barça soit nouveau, bien au contraire. Et je pense surtout que qu'aujourd'hui, le Barça ne commence pas sa saison, mais doit surtout essayer de sauver les meubles par rapport à sa saison.
Moi, quand je dis bien une nouvelle saison, c'est pour moi, il faut pour eux, pas seulement pas oublier.
C'est sauver la saison, en fait, plus que ça.
C'est sauver la saison, voilà. Tu vois, c'est ça. C'est, en fait, au final, tu ne l'oublies pas, la saison, enfin, le début de saison que tu as fait. Mais tu vas l'utiliser pour te renforcer, pour te dire, on revient de loin aussi. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui va être bonne aujourd'hui pour les joueurs à prendre. Eh ben oui, parce que tu reviens de super loin. C'est pour ça que moi, je suis, on va dire, assez optimiste dans ma vision des choses. Où, quand je me rappelle de certains matchs que tu faisais en début de saison, et puis même il y a déjà un mois et demi, je trouve que tu reviens très bien, tu vois. Après, toi, tu penses que le PSG est favori, largement ?
Oui, pour moi, le PSG est favori parce que le PSG a plus de certitudes collectives que cette équipe du Barça. Je pense que là où le Barça a vraiment un secteur de jeu où il peut être supérieur à ce Paris Saint-Germain-là, et je pense que ça, ce sera aussi la clé du match, c'est au milieu de terrain, avec, parce qu'on a eu la certitude normalement qu'il sera de retour, en tout cas Frenkie de Jong qui pourrait revenir, et on sait dans tous les cas que Xavi jouera sans doute avec Christensen, donc on aura à mon avis de Jong, Gundogan, mais c'est un milieu de terrain qui est aujourd'hui plus confirmé que les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, et je pense que la clé du match peut se faire là-dessus. Mais oui, je pense que si on voit les forces en présence, et surtout si on regarde un coach du côté du Paris Saint-Germain, qui va savoir nous lire, qui va savoir lire notre coach, voilà, entre guillemets, je pense que c'est vraiment une des clés aussi, Luis Enrique, de cette rencontre en faveur du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais oui, pour moi, le PSG part favori. Mais je pense aussi que c'est quelque chose de bien pour le FC Barcelone.
Ok. Yo, Médard ?
Ouais, non, moi, je voulais juste revenir sur un truc qu'il a dit qui était assez intéressant. Il n'y a aucune certitude avec ce Barça, c'est ça aussi. Il y a un manque de régularité, c'est-à-dire que contre Naples, on doit partir avec 3 buts d'avance, tu vois. Et en fait, tu sais pas à quoi t'attendre avec ce Barça. C'est pour ça que même moi, la dernière fois, j'avais pas dit le PSG largement favori, mais j'avais dit le PSG favori parce que le PSG, il y a quand même certaines certitudes, tu vois, que t'as pas avec le Barça. Le Barça, comme on l'a vu, ça peut faire un partout contre Naples alors que ça peut en mettre 3 ou 4. Et derrière, ça, c'est tueur contre l'Atlético, tu vois, à l'extérieur. Donc en fait, t'as un club que tu sais pas, en fait. Ils peuvent mettre 4-0 au Real, ça se trouve, au prochain Classico. Mais tu vois, perdre contre une petite équipe, tu vois, bêtement, parce qu'ils ont loupé 10 occasions, tu vois. Donc en fait, tu sais jamais à quoi t'attendre avec ce Barça. Là où le PSG, quand même, tu sais un peu plus à quoi t'attendre. T'as quand même certaines certitudes. Et Luis Enrique, qui est quand même un facteur X. Xavi n'a jamais été en 8e de. Rien qu'en 8e. Enfin, il n'avait jamais été avant ça, tu vois. Luis Enrique, c'est quand même un coach qui a de l'expérience, au-delà du fait qu'il connaisse le FC Barcelone. Parce que pour moi, en vrai, c'est pas le même Barça qu'il a connu, on va pas se mentir. Exactement. Même le terrain, ce sera pas le même. Enfin, donc, il connaît Ter Stegen et Sergio Roberto, quoi. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un coach qui sait préparer ses matchs. C'est un coach qui a des baloches, tu vois. Je veux dire, enfin, on se rappelle tous de ce qu'il a fait de l'autre côté, tu vois. En 2017, aborder un match de Ligue des Champions comme ça, un quart de finale, en disant oui, je peux leur en mettre 6, tu vois, alors qu'ils nous en ont mis 4 avant, tu vois. C'est quand même un coach qui est, voilà. Xavi, il est un petit peu plus frileux, on va pas se mentir. Donc maintenant, c'est à Xavi de montrer qu'il est capable d'amener une équipe loin en Ligue des Champions. Tu vois, c'est son dernier défi, parce que moi, je ne crois pas qu'il restera, tu vois, même si Laporta, voilà, je pense que c'est surtout de la communication, parce qu'il ne sait pas encore qui prendre, mais son dernier défi. Oui, c'est sûr. Tu vois, donc c'est un dernier défi pour lui, tu vois, et pour moi, il doit jouer sans peur, sans crainte. On sait que, voilà, ton passage, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire non plus, mais voilà, pour moi, il devrait justement jouer un peu sans crainte, comme quand il est arrivé, tu vois, et qu'il avait une équipe un peu moins bonne, et qu'il jouait un jeu quand même qui était pas mal. C'est ça qu'on veut, quoi.
On va dire, le fait de voir cette équipe jouer sans crainte, c'est ce que je vois depuis que Xavi est parti, enfin, a annoncé en tout cas qu'il partait, c'est, au final, on n'a rien à perdre. Et je pense que c'est ça aujourd'hui aussi la force de ce Barça-là, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. S'ils perdent, ils vont continuer à se faire allumer par les médias et tout le monde. Et ça va commencer à avoir des rumeurs, comme d'hab. On connaît le Barça, mais je pense qu'ils commencent à être habitués. Et s'ils gagnent, tu vois, chaque défaite, au final, chaque victoire, c'est un bonus en plus, soit juste pour Xavi et pour l'équipe. Donc c'est pour ça que je pense que cette mentalité de se dire on n'a plus rien à perdre peut jouer en faveur du Barça. Je sais pas toi ce que t'en penses, Gurvan, de cette entre guillemets
motif nouveau Barça. Moi, ça m'embête quand on part avec cette mentalité en étant le Barça, on n'a plus rien à perdre face au PSG. Tu vois, arriver avec cet état d'esprit, ça me fait mal. Mais d'un côté, je te rejoins et je rejoins Meda parce que on l'a souvent dit, là où le Barça de Xavi était le meilleur, c'est à son arrivée quand il jouait sans appréhension, sans crainte, sans attente énorme en fait, si tu veux. Mais ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal de me dire, on y va, on n'a rien à perdre. Non, on est le Barça, on affronte le PSG, c'est la Ligue des Champions. On a un certain standing à faire respecter. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que disait Mika, la clé va être au milieu de terrain, où je le rejoins tout à fait, parce que le PSG a quand même des petites lacunes au milieu, on va pas se mentir. Mais je pense que ça sera une bataille intéressante à suivre. Mais ce que je veux souligner surtout, c'est qu'il y a une bataille qu'on a tendance un petit peu à oublier, et Médard en a parlé un petit peu, c'est notre fébrilité offensive. Parce que plusieurs fois cette saison, on a été l'équipe qui se procurait le plus d'occasions, mais qui, devant le but, n'arrivait pas à finir.
Elle est là, la grosse diff avec le PSG au niveau des certitudes.
Elle est là, la grosse diff. Elle est là. Et en Ligue des Champions, Mika, je te la prends pas, tu sais très bien que ça pardonne pas.
Voilà.
Donc,
le PSG n'a pas aujourd'hui l'équivalent d'un mec comme Kylian Mbappé en face, son camp. Donc,
mais personne, personne n'a Kylian Mbappé de façon.
C'est ça.
Mais de toute façon, on l'a vu contre la Sociedad, hein, en vrai de vrai. Enfin, pour donner l'exemple. C'est le meilleur exemple contre la Sociedad. Tu vois qu'ils sont un peu en galère et tout. Et puis d'un coup, tu as Mbappé, il sort de nulle part, il te met un doublé. Ouais, tu vois.
Après, personne n'a Kylian Mbappé, mais personne n'a le Haaland. Enfin, le Barça n'a pas le Haaland de City, le Barça n'a pas le Vinicius du Real, le Barça n'a pas la force offensive d'Arsenal. Aujourd'hui, le Barça a comme force offensive un petit gamin de 16 ans qui porte à lui tout seul l'animation offensive. Il faut être aussi honnête et accepter de le reconnaître aujourd'hui. Moi, personnellement, Rafinha a fait un bon match contre Naples au retour. Je veux bien, mais c'est beaucoup trop insuffisant par rapport à ce qu'on attend. Robert Lewandowski est un planteur. Il remarque un petit peu de buts, mais c'est aussi insuffisant par rapport à ce qu'on a connu de lui au Bayern. Donc aujourd'hui, moi, l'animation offensive, ce que je vois vraiment à chaque fois quand ça déclenche offensivement, ça vient surtout de Lamine Yamal ou des montées d'un Cancelo de l'autre côté. Mais je ne vois pas une animation offensive comme je vois chez les autres gros clubs qui sont présents dans cette Ligue des Champions.
Ah, c'est clair. Après, Rafinha, pour revenir sur Rafinha, comme tu l'as dit, c'est insuffisant. Même quand les gens disent que c'est un bon match, c'est un bon match quand tu compares à tous ces matchs d'avant, parce que ça reste un 5 sur 10. C'est les bons matchs de Rafinha, ils sont...
Je peux lui mettre un peu plus.
Vu du stade, en tout cas, j'ai pas trop apprécié ce match parce que je trouve que c'est quelqu'un qu'on met sur ton valeur pour son énergie et son envie. Mais sinon, au-delà de ça, c'est très faible, je trouve en tout cas. J'ai trouvé que son match contre Naples, il était correct, bon, on va dire, allez. Mais sans plus, en tout cas, c'était mon avis.
C'est quand même un joueur. Moi, voilà, j'étais plus son arrivée à l'époque. Je me souviens, mais t'as vu, c'est quand même un joueur qui est. C'est pas un vrai Brésilien, comme on le dit souvent. Tu sais, on charrie un peu, mais c'est un joueur qui.
Mais c'était un vrai Brésilien. Bizarrement, il va stater.
C'est ça, mais c'est pour ça que je le voulais et je le survendais, parce qu'on me parlait d'Anthony et tout. Je disais, mais non, ce mec-là, il a tout, en fait. C'est-à-dire que quand il joue décomplexé, il est capable du meilleur, mais chez nous, je pense qu'il joue avec beaucoup de pression aussi. Malgré tout, c'est un joueur qui, dans le dernier périmètre, il va peut-être croquer et tout, mais si tu regardes bien, je pense que c'est d'autres joueurs qui se créent le plus d'occasions. Maintenant, t'as Yamal, mais c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions, qui peut s'en créer tout seul, qui a, voilà, évidemment, un volume de jeu, tu l'as dit. Mais voilà, c'est pas un joueur qui va faire de la différence au milieu de terrain par un dribble ou quoi comme il le faisait à Leeds, qui va te porter une attaque. Par contre, c'est un joueur quand même qui va faire ses statistiques et mine de rien contre Naples, il fait une passe D et une frappe sur le poteau qui revient chanceusement un peu sur Cancelo. Mais après voilà, oui, c'est vrai que c'est pas le match du siècle. Parfois on a besoin de ça aussi, tu vois.
Oui, mais globalement, c'est plus que fait, parce que cette qualité d'élimination à partir du métal ou même après, il ne la met pas en exergue, tu vois. Et c'est ce qui manque à ce Barça-là, c'est que sur les côtés, à part un gamin de 16 ans, t'as personne. T'as Joao Félix, mais qui joue très peu, hein, par rapport à ce qu'il faisait au début de saison, hein, le temps de jeu qu'il avait au début de saison. Sinon, Rafinha, on manque de, on va dire, on manque d'un Dembélé. En vrai,
c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là où je regrette le départ de Dembélé, moi. Enfin, les gens, ils peuvent vanner, t'as vu, on charrie un peu et tout, mais c'est un joueur qui crée des différences. Ouais, mais c'est un joueur qui crée des différences. Il va toujours te faire une dizaine de passes dans la saison. Il va toujours provoquer, peut-être parfois un peu bêtement, mais il va toujours tout le temps provoquer. Il se retourne, il reçoit, c'est direct du 1 contre 1 face à son latéral. Donc s'il passe pas une fois, il va passer trois fois. Tu vois ?
On l'avait dit, et au bout d'un moment, voilà. On l'avait dit en Space, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait fait ensemble, je crois que c'était au début de saison. Et lorsque Dembélé est parti, on avait fait un Space ensemble, il y avait Issam et tout, mais je pense que vous étiez là aussi. Et on avait dit très clairement, le problème du départ d'Ousmane Dembélé, pour moi, ce n'était pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, ce n'est pas grave, on ne perd pas grand-chose ». Enfin, j'étais d'accord par rapport au fait par rapport à ce qu'on attendait de lui. Très clairement, aujourd'hui, le transfert, il n'a pas été abouti, ça c'est sûr. On n'a pas rentabilisé les 150 millions d'euros qui ont été mis sur lui pour remplacer le départ de Neymar. En 6 ans, il a très peu joué. Mais là où ça me gênait, et on l'avait très bien dit, et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Meda, c'est le profil. Parce que le profil, on ne l'a pas au Barça, à part lui, dans la nouvelle équipe. Oui. Et c'est là où finalement, ce profil-là, on l'a trouvé par la force des choses. Avec Lamine Yamal, c'est pas exactement le même profil non plus, mais c'est quand même, en tout cas déjà dans l'élimination, dans ce qu'on attend, évidemment que Lamine Yamal est capable de faire ça. D'ailleurs, au final, est-ce qu'on se dit pas aujourd'hui, entre guillemets, S'il n'y avait pas eu ce départ de Dembélé, on n'aurait peut-être pas vu Lamine non plus. Donc au final, voilà, on peut en parler d'un point de vue comme de l'autre, mais c'est aussi important d'évoquer le cas Dembélé, parce qu'on sait que les supporters du Barça lui en veulent beaucoup. On sait qu'il va avoir une grosse pression lorsqu'il va revenir. On sait qu'il va se faire sûrement, et je pense que ce sera une surprise pour personne, sifflé par le Montjuïc lorsqu'il sera de retour avec le PSG. Mais ça peut aussi le motiver, donc attention.
C'est ça, c'est ça. Donc hâte de voir un peu cet affrontement aussi entre Rafinha et Dembélé et puis même Lamine Yamal, et Dembélé, le gamin qui dit à l'ancien regarde, t'es parti mais je suis là maintenant, tu vois, c'est assez drôle. En fait, il y a plein d'histoires entre ce PSG là et ce Barça là. Il y a des matchs dans le match, il y a des histoires, enfin, tu as Xavi contre contre Lucho, tu vois ce que je veux dire, c'est
on parlait du match du divertissement. Moi pour moi le vrai match de football, il est à Madrid. Et le vrai match du divertissement, c'est celui-là.
Et encore, le match aller, je pense que City et Real, comme on l'a vu, je pense que ça se répétait comme celui de l'année dernière à peu près. Match aller, pas fou. C'était un jeu très tactique, très technico-tactique. Ça bouge pas, ça reste assez prudent, je trouve. Par contre, le match retour, oui, là, ça va être un vrai match.
J'ai envie de se taper dessus, là, encore plus de la part des deux
équipes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Il y a une soif de revanche du côté madrilène. Toi, Mickaël, toi qui suis beaucoup en vrai le PSG, qu'est-ce que tu penses de cette saison du PSG ?
Écoute, moi déjà, je l'ai déjà dit, je suis un grand fan de Luis Enrique, parce que pour moi, le problème du PSG depuis des années a été la direction, Nasser Al-Khelaifi en tête d'affiche, mais également les autres, parce que en fait, cette direction avait trop de pouvoir. Et cette direction se mêlait sans cesse de ce qui se passait au sein du sportif. Et on ne peut pas avancer comme ça. Tous les entraîneurs qui sont venus n'ont jamais été des entraîneurs de la renommée de Luis Enrique, soyons honnêtes. C'est pas parce que Tourelle ou Emery le sont devenus après qu'ils l'ont été avant d'arriver au PSG. Ça a toujours été des entraîneurs, lorsqu'ils sont arrivés au PSG, excusez-moi du terme, de seconde zone, à part Carlo Ancelotti, mais qui est parti parce qu'on lui a manqué de respect très rapidement en n'ayant pas eu le temps de mettre son système en place. Et au final, quand tu regardes bien tout ça, tu te dis que ça a été le gros problème. On a donné des passes droits à des joueurs, on a protégé les stars, on a en fait empêché les entraîneurs d'avoir la main mise sur leur groupe. Et ça, c'est la chose qui a changé avec Luis Enrique. C'est-à-dire que tu prends par exemple Christophe Galtier, quand il arrive, on lui dit « Ouais, ça te fait quoi de jouer avec Mbappé, Neymar, Messi ? C'est un rêve pour moi, j'aurais jamais pensé pouvoir les entraîner. » Luis Enrique arrive en conférence de presse. Qu'est-ce que vous pensez de Neymar, de Verratti, de Mbappé ? Ah, pour l'instant, j'en pense rien, je ne les ai pas vus encore jouer à l'entraînement. Voilà des différences de mentalité. Et d'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi l'avait très bien dit, on va beaucoup moins me voir. Et je savais, d'ailleurs, c'est pour ça, Luis Enrique, rappelez-vous, l'officialisation avait mis beaucoup de temps depuis que Romano l'avait annoncé, parce que je me disais, alors peut-être je me trompe, mais Luis Enrique attend des garanties de la part de cette direction. Luis Enrique est un mec qui n'acceptera pas de travailler si jamais la direction ne lui laisse pas les pleins pouvoirs. Et il n'hésitera pas à mettre la clé sous la porte si c'est le cas. Donc ça, c'était déjà quelque chose. Ensuite, malheureusement, dans le dossier Mbappé, j'ai adoré qu'il le mette au loft, mais sauf que derrière, la direction est revenue. Lui, il s'est dit, voilà, j'ai Mbappé, il faut me le garder pour une saison. Je trouve que ce n'était pas le meilleur choix à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été content qu'il le mette sur le banc plusieurs fois. On sait que Luis Enrique est bien pour ça. Mais il est en train de recréer un groupe. Et Luis Enrique ne vient pas pour gagner la Ligue des Champions maintenant à Paris. Luis Enrique vient la gagner pour 2-3 ans. Alors, on voit qu'il est dans une logique de reconstruction. Mais ce qui est sûr, c'est que même si le PSG n'est pas flamboyant cette saison, soyons honnêtes, on voit des choses. On voit du jeu, on voit un système, on voit des idées, on voit qu'ils tentent des choses, on voit de la rotation, on voit beaucoup de joueurs du banc qui vont potentiellement pouvoir prendre la place des titulaires. On voit une concurrence loyale et saine. Et ça, c'est quelque chose au Paris Saint-Germain que je mets vraiment à leur crédit. Maintenant, c'est une équipe qui, à l'instar du Barça, a encore quelques trous d'air au sein de ses matchs. Ça énerve d'ailleurs énormément encore Luis Enrique. Le but n'est pas de gagner la Ligue des Champions maintenant. Maintenant, s'ils ont une occasion de le faire, évidemment qu'ils vont aller la chercher. C'est une équipe qui va surtout être très dangereuse en transition. Et les équipes en transition ont très souvent gêné le Barça. Donc attention à ce Paris Saint-Germain-là. Même si les milieux de terrain ne sont pas énormes, s'ils sont dans un grand soir, Zaïre Emery, Vitinha et un Ugarte notamment, c'est des joueurs qui peuvent être très 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 dangereux. Donc attention à eux. Attention aussi bien sûr à des mecs comme Nuno Mendes et Hakimi, qui seront là, et qui sont des latéraux qui peuvent apporter énormément offensivement, et on connaît les fébrilités défensives du FC Barcelone en transition, sans parler de Dembélé, d'Mbappé et d'un Bradley Barcola, qui est pour moi aussi vraiment la petite pépite à suivre côté PSG, parce qu'il fait un mal fou, notamment contre la Sociedad au match aller où il avait été très bon.
Mais du coup, il sera là, Barcola ? Juste une question, parce que j'ai vu qu'il était sorti sur blessure.
Alors, ouais, c'est ce qu'on a vu.
C'est 3 semaines out, non ?
C'est annoncé que peut-être pour le match retour, match aller, normalement, peut-être pas. Mais ça voudrait peut-être dire qu'on aura un Gonzalo Ramos qui prend de la confiance, qui est un attaquant que j'aime beaucoup. Attention aussi.
Mais Hakimi aussi, hein, ce match retour aussi également.
Alors Hakimi, j'ai entendu que ça... Hakimi, j'étais dans un space PSG avec OP notamment tout à l'heure et qui me disait qu'apparemment cette histoire de suspension était fausse, qu'il serait bien là au match. Allez.
Ok.
J'ai une question juste pour Mickaël. Si toi, tu dois... Parce que tu as cité beaucoup de joueurs, mais si tu dois en donner... Je ne vais pas dire 3, ça fait quand même beaucoup, mais si tu dois en donner 2, genre vraiment, on enlève Mbappé, parce que bon, c'est logique. Mais si tu dois en citer 2 côté PSG, de qui on devrait se méfier, vraiment ?
Le premier, c'est Ousmane Dembélé, mais je pense que ce n'est pas une surprise. Parce que pour le coup, on l'a déjà dit, c'est vrai que sous les derniers mois d'Ousmane Dembélé à Barcelone avec Xavi, on commençait à avoir un peu plus de régularité. C'est là qu'on s'est dit peut-être qu'on va avoir un nouveau Dembélé à Barcelone. Ça avait très bien débuté. Bon, après, il a eu une blessure en fin de saison. Mais là, au PSG, il n'y a quasiment pas de blessure. Il y en a eu une, elle a été très courte. Il enchaîne, il est très régulier, il est très bon. Là où on pensait que venir à Paris, se rapprocher de son cercle, ça n'aurait pas été bon pour lui, bah finalement, on se rend compte que c'est tout l'inverse. Et en plus de ça, pour moi, je vais même être honnête, il y en a beaucoup qui vont me dire nanana, mais pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de la saison du côté du PSG, devant Kylian Mbappé, parce que c'est celui qui fait le plus de différence.
Ouais, t'es pas le seul à le dire, j'en ai entendu beaucoup dire ça. Donc.
Pour créer des espaces. Et en plus de ça, je pense qu'il va être très revanchard de jouer le Barça. Premier joueur pour moi à s'en méfier. Le deuxième, s'il est en grande forme, et alors vous allez peut-être rigoler, parce que c'est peut-être pas le nom que vous auriez pensé.
Je pense savoir qui tu vas dire, mais je t'écoute.
Moi.
Ce serait pas un Portugais ?
Eh ben ouais.
C'est quoi, terrain ou latéral gauche ?
Milieu de terrain.
Oui, voilà. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Non, mais moi aussi, je m'en méfie. Il est pas mauvais, ce joueur.
Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un joueur qui est capable d'alterner le bon et le moins bon. Mais très clairement, depuis l'arrivée de Luis Enrique, et je pense vraiment qu'il va en faire un crack, Vitinha est quand même quelqu'un de très très bon. Vitinha est quelqu'un qui a le jeu pour jouer en face. Très clairement.
Quand tu le mets un peu plus bas, il est excellent. Hein.
Il s'est montré très très bon dans le rôle de 6 parce que c'est un garçon qui peut remonter le ballon, qui a une grosse qualité technique balle au pied, qui a aussi une très belle vision de jeu, qui peut écarter les ballons à droite, à gauche, devant, casser des lignes, balle au pied, mais également par la passe. Joueur que je trouve ultra intelligent. Et pour moi, il va falloir se méfier de Vitinha parce que Vitinha dans un grand soir, il peut faire très très mal. C'est aussi un joueur qui est capable de prendre sa chance aux 20 mètres, aux 25 mètres. Attention à Vitinha.
Bah tiens, Médard, pour toi, côté Barça, quels sont les deux joueurs que tu dirais au PSG, méfiez-vous de ces deux joueurs-là.
Je ne vais pas être original au vu de ce dont on parle. On parle que de ça cette saison. Donc forcément, Yamal, il l'a dit, Mika, c'est notre meilleur offensif. Et voilà, Lewandowski, je sais que s'il n'est pas servi, il ne marquera pas. C'est comme ça. Il ne peut plus prendre le ballon à 60 mètres, faire un décalage, aller dans les cages et tirer et marquer. Donc, je dirais Yamal, forcément. À voir, parce que je sais que Nuno, c'est un client quand même défensivement. À voir s'il est bien revenu de sa blessure, parce qu'il a quand même une longue blessure. Donc, Yamal. Et deuxième, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué.
Est-ce qu'on partirait pas sur deux jeunes de la Masia ?
En fait, j'avais envie de dire Koubarsi de base, parce que voilà, mais je ne suis pas encore sûr, tu vois, forcément, c'est logique. Donc, je dirais peut-être Gundogan, tu vois. Gundogan, j'ai envie de le... Parce que je sens qu'il monte bien, il est bien en train de prendre son rôle de leader au milieu de terrain, surtout là, en l'absence des autres milieux de terrain, et il est en train de revenir à un niveau. C'est vrai qu'il avait eu un peu de mal en début de saison, mais là, il affiche une régularité depuis quelques mois où... Vraiment, il te porte l'équipe. Peut-être que ça se voit pas autant qu'un autre joueur qui va plus s'éliminer, mais il oriente le jeu, il fait tout. Il est au four et au moulin. Il est derrière, il est devant. Il marque moins qu'à City, mais il peut marquer.
Il fait beaucoup plus de stats d'ailleurs.
Oui, il stade bien plus. Il est là, il fait des passes. Il est bien installé dans ce milieu de terrain. Je trouve aussi ça. Après, c'est les joueurs techniques entre eux. On sait qu'ils s'entendent toujours, mais je trouve qu'il a une très bonne entente avec Lamine Yamal. On n'en parle pas assez, mais je trouve que il oriente toujours très bien sur son côté. Il se présente toujours bien, voilà. Donc je dirais.
Tu me diras même avec Lewandowski, hein, c'est celui qui le sert le plus.
Après, ils se connaissent.
Parfaitement bien. Ouais, c'est ça, mais ils s'entendent parfaitement bien et ça fait plaisir de voir cette attachimie entre les deux. Toi, Gurvan, quels seraient tes deux joueurs? J'ai vu que tu as demandé la parole.
Ouais, bah écoute, Yamal, hein, sans surprise. C'est assez embêtant de citer un mineur comme ça pour un match si important en Ligue des Champions. Mais Yamal, hein, c'est clairement le mec qui nous porte. Gundo, je suis d'accord avec Médard parce que c'est un joueur que j'ai un petit peu pointé du doigt en début de saison. Il y a eu le temps d'adaptation. C'est vrai que maintenant, il revient super bien. C'est un joueur clé. Mais c'est pas lui que je vais mettre en avant. C'est un autre. J'espère qu'il sera titulaire ou du moins qu'il va rentrer en cours de match. C'est le copier-coller de Gavi en plus technique.
Mmh, et je voulais aussi, je voulais.
Et la grinta andalouse, c'est notre petit Fermín López. Qui va arriver avec une envie exceptionnelle sur le terrain, surtout pour un match de Ligue des Champions comme ça, qui a une frappe incroyable, qui est techniquement capable d'éliminer au milieu ou dans la surface adverse. Donc, petit poison pour le PSG, à mon avis, à surveiller s'il joue. Et j'espère qu'il va nous régaler sur un match important en Ligue des Champions.
Alors, si je peux me permettre... Je voulais rajouter quelque chose parce que alors j'étais sur un space pour parler du fameux PSG Barça le Max Space, je ne sais pas si vous connaissez sur Twitter. J'y étais et il y avait Sofiane d'actualité Barça et qui lui nous a dit que Gundogan était le meilleur joueur du Barça de toute la saison confondu.
Et j'ai vu qu'il l'avait tweeté aussi. Ouais.
Après, il l'a tweeté parce que Gundogan avait fait un gros match contre Atletico. Donc, en gros, il l'a tweeté pour me piquer, entre guillemets, en me disant... Ah. Parce que moi, je lui ai dit que ce n'était pas le meilleur joueur. Et justement, c'est celui que je pense qui est le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison que vous n'avez pas dit et que Cancelo. J'ai envie de mettre en valeur.
Est-ce que ce serait pas encore un Portugais?
Mais bien sûr, mais soyons honnêtes.
Non, mais t'as raison, je suis d'accord avec toi.
Aujourd'hui, on ne dit pas que le joueur le plus régulier depuis le début de la saison du Barça n'est pas Joao Cancelo, c'est qu'on n'est pas non plus hyper objectif. Moi, personnellement, alors après, je ne dis pas que mon avis est le meilleur, mais on a tous été dithyrambiques quand lui est arrivé et quand Félix est arrivé, mais lui a directement assumé. Lui est un joueur exceptionnel. Lui est un joueur qui, même en étant baladé à droite, à gauche, est un joueur capable de faire des différences énormes. Et c'est le joueur, c'est vraiment, tu vois, ce mec-là qui me fait un peu rappeler, alors toute proportion gardée, mais ce qu'on pouvait avoir au Barça avec Alves à l'époque. C'est vraiment ce latéral qui est capable de s'introduire au milieu de terrain, qui est capable de s'introduire en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit. Il a une palette exceptionnelle, il rentre dans le jeu, il est fort. Alors oui, il laisse beaucoup d'espace dans son couloir. Et c'est ce pourquoi je pense que Christensen sera titulaire pour essayer aussi de compenser ses montées. Mais pour moi, c'est un joueur qui peut vraiment mettre la misère au Paris Saint-Germain par ses montées, par ses centres, par ce qu'il est capable d'amener.
Ça, c'est ouais, mais Mika, Cancelo, tu vas le juger sur quoi? Sur l'aspect offensif ou défensif? Parce qu'il aura un travail défensif énorme sur la double confrontation si Dembélé n'est pas blessé.
Mais Gurvan, ouais,
c'est lui aussi qui va pouvoir régler tes problèmes offensifs. Donc c'est
ça, mais complètement.
J'ai envie de trouver le système parfait, notamment avec Christensen, pour peut-être essayer de compenser les montées. Mais pour moi, l'erreur à ne pas faire, parce qu'il y aura peut-être. Bon, Baldé ne sera pas de retour, je pense, les gars.
Non,
c'est fin de saison.
Dans tous les cas, l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas mettre Araujo sur le côté droit, comme on a voulu le faire en Supercoupe avec Vinicius. Ça ne marche plus, il faut le laisser en centrale avec Koubarsi. Et les Koundé qui progressent au poste de latéral droit défensivement. Il faut le dire, très gros match pour lui contre Naples notamment. Voilà, contre
et puis Barat, même, de, ça fait... Mais là aussi, où, pour dire ce que tu disais Gurvan, sur comment utiliser aussi Cancelo sur ce match-là où il aura un client qui est Dembélé clairement, est-ce qu'en jouant assez offensif, assez haut, et continuer dans cette idée-là, tu ne forces pas aussi Dembélé, tu le limites à ce côté offensif-là? T'as pas cette impression-là où on se rappelle d'un duel Daniel Alves Cristiano Ronaldo aussi où
ouais, mais comme
Mourinho avait changé de poste. Dis-moi.
Non, excuse. Comme Mika l'a dit, le souci, c'est que derrière, le PSG, c'est en transition rapide. T'as deux flèches, t'as Dembélé et Mbappé. Tu peux pas te permettre de jouer trop offensif en libérant trop d'espace. Ou alors, faut vraiment que tu sois sûr de tes défenseurs qui restent en place. Malheureusement, ils reviennent un petit peu en confiance. Mais ça reste quand même... Koubarsi n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Ou du moins, très peu. Araujo, cette saison, il est pas au top de sa confiance. On l'a connu beaucoup mieux, même si là, il revient bien. Il faut le souligner. Christensen en 6, c'est pas mal, mais il se cherche toujours un petit peu. OK, il redescend. Il redescend, ce qui soulage un petit peu nos défenseurs centraux. OK, mais je sais pas. Pour moi, tu peux pas te permettre de trop te découvrir et d'y aller
non, bien sûr.
Avec un bloc super haut, si tu veux.
Pas tant se redécouvrir en soi, parce que pour moi déjà le Cancelo il va défendre sur, enfin c'est Hakimi qui va devoir le défendre. Cancelo pour moi il a pas un rôle de latéral en soi au Barça, il a un rôle de piston et de toute façon il peut tout faire lui, il l'a dit Mika, il peut s'insérer au milieu, il peut coller la ligne. C'est vraiment pour moi, de toute façon je l'ai toujours dit pareil, c'est la relève de Dani Alves, enfin c'est le joueur qui lui ressemble le plus dans ce que j'ai pu voir dans le foot, tu vois. Donc pour moi ça va être un duel plus Cancelo Hakimi que Cancelo Dembélé, parce que
t'as une tâche défensive, mais Dark,
oui, tu peux pas négliger, mais je suis d'accord
face à ce genre d'adversaire.
Je suis d'accord, mais pour moi c'est pas, justement pour moi c'est là où tu vois, on l'a vu aussi depuis que Koubarsi il est dans le 11, et puis même avant de toute façon c'était le même schéma. T'as un Cancelo quand même qui est assez haut et t'as un Christensen qui est assez rapide quand même pour couvrir les transitions, et du coup t'as un Koubarsi qui se glisse un peu dans le couloir gauche, tu vois,
le
et c'est pour moi ça
peu,
va
ouais.
être lui qui va ouais ça va être lui surtout qui va avoir Dembélé pour
ouais,
client,
mais tu seras obligé de venir l'épauler,
non,
tu seras obligé
oui,
de faire des prises
sûr,
à deux
sûr.
Tu
mais ça c'est surtout en pour moi c'est surtout en phase défensive pure, mais en transition Cancelo il sera pas là.
Ouais, mais en phase défensive,
on est habitué.
Si tu regardes nos matchs, on est bon 20 minutes, une demi-heure, parfois trois quarts d'heure, donc une mi-temps, mais derrière, on subit. Donc au final, des phases défensives, on en a beaucoup tous les trois jours, tu vois.
Et c'est peut-être pas là la grosse problématique du Barça aussi cette saison, et puis même, surtout sur ce match-là, c'est comment gérer ton temps faible. Parce que physiquement, comme on l'a vu c'est déjà contre Naples, au bout de la 30e, bah, t'es mort. C'est...
Bah, t'as pas le droit.
Là tu fais là contre Naples, tu peux te le permettre entre guillemets, mais contre le PSG tu peux pas te le permettre, c'est pas
tu
possible
peux pas. Avec les deux sur les côtés, là t'as pas le droit,
bien sûr, mais surtout même au milieu de terrain, Ugarte ou que ce soit Vitinha ou Ugarte, c'est des joueurs qui ont un abattage physique, c'est ouf. Ils sont, surtout Ugarte, quand tu le vois tu dis ouais, le mec il en impose, c'est pas vrai Mika?
Est-ce que Ugarte il va jouer parce que ça a pas l'air d'être le titulaire quand même.
Ah, plus l'air d'être titulaire, mais je conseillerais quand même à Luis Enrique sur ce match-là de mettre Ugarte.
Je suis d'accord avec toi, ouais.
Après, c'est vrai que dernièrement, on a plus vu Vitinha, Zaïre Emery et ce bon vieux Fabian Ruiz.
Ouais, c'est ça, en fait. Ça peut être une clé aussi pour nous, ça, Fabian Ruiz, parce qu'il est vraiment pas bon, on va pas se mentir.
Bah,
bon,
attends,
c'est un joueur qui a du ballon, c'est un Espagnol.
Voilà, c'est quelqu'un que Luis Enrique connaît bien. Il a fait jouer avec la sélection en Espagne. C'est pas un mauvais joueur.
Non, je suis d'accord.
Je ne l'ai jamais vraiment vu exceptionnel dans ce PSG, à part lors de la victoire 3-0 du PSG au Vélodrome l'année dernière sous Christophe Galtier, où il avait fait un bon match. Mais sinon, un très bon match d'ailleurs. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu le joueur qui va jouer latéral, c'est pas le joueur qui va ramener énormément de mouvements. Moi, je pense que face au Barça, dans un match intensité Ligue des Champions, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha est le meilleur milieu de terrain à mettre, pour moi, pour le Paris Saint-Germain, pour avoir le plus de chances. Maintenant, on n'est pas à l'abri de voir Fabian Ruiz.
Ça me choquerait pas pourtant. Hein. Ça me choquerait pas. Connaissant Luis Enrique, il peut te.
Ça t'arrangerait surtout.
Aussi,
ouais,
après,
complètement.
Après,
ouais.
Ugarte, c'est plus un. Bon, je ne vais pas le faire passer non plus pour un bourrin, mais c'est plus un défenseur, entre guillemets. Enfin, c'est un 6 pour défendre. Mais techniquement, c'est pas
je
le.
Disais, c'est
voilà.
Physiquement.
Mais quand non, mais toi,
voilà,
c'est ça, mais quand tu vas avoir besoin de sortir en transition et de récupérer les ballons hauts, excuse-moi, mesdames, et bien là. Un Ugarte peut te récupérer des ballons et il va être très bon dans ça. Et peut faire en sorte aussi de prendre le Barça en contre-attaque.
Ça, je suis d'accord. De toute façon, il a forcément des qualités. Donc oui, moi, c'est juste surtout sur les phases de construction, tu vois. Je vais avoir plus peur d'un Fabian Ruiz, bon, voilà, qui s'est quand même orienté, tu vois.
N'aie pas peur.
Moi, je vois... En vrai, qui va avoir le ballon, ça, c'est intéressant de ouf. Je pense que ça dépendra du... En fait, à 0-0, je peux pas te dire.
Par contre, ça dépendra. S'il y a une équipe qui est en train de perdre, elle va avoir le ballon pour moi. Parce que c'est quand même voilà, des équipes qui... On l'a vu contre la Real Sociedad, qui a un très beau milieu de terrain. Le PSG a quand même beaucoup laissé le ballon. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas.
Je pense que le Barça aura le ballon. Moi,
ah ouais, moi je pense aussi, mais pas
c'est exactement
pas
tant comme que ça.
Tu vois. Parce que c'est pas un Barça qui a 70% de possession, tu vois.
Alors, c'est pas, donc, ce c'est pas... C'est pas le Barça de Guardiola. Moi, mais pourquoi ? Vas-y.
En fait, moi, j'ai l'impression de Barça de Xavi, c'est qu'on accepte des fois de ne pas avoir le ballon. Donc, c'est pour ça que c'est une équipe comme le PSG, surtout celui de Luis Enrique, je pense que c'est plus eux qui auront le ballon sur ce match-là.
Ouais,
après,
ils ont fait pareil, regarde, avec la Sociedad notamment, où ils n'ont pas, forcément eu le ballon. Et je pense qu'avec la qualité du milieu de terrain du Barça, je pense que le Barça aura un peu plus le ballon. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Barça va l'utiliser super bien. Oui. Et ça veut pas dire, et c'est pas parce que le Barça aura le ballon que le Barça ne pourra pas jouer les contre-attaques dès qu'ils vont récupérer le ballon. Parce que le Barça de Xavi a énormément changé par rapport aux autres Barça. C'est-à-dire que ce Barça-là, et tant mieux, j'ai envie de dire, et on l'a surtout vu contre Naples, surtout sur le deuxième but, avec Lamine Yamal qui envoie la très belle passe pour Rafinha derrière, une passe qui va casser 30 ou 40 mètres. Donc voilà, on voit bien que c'est une équipe qui, même si elle a le ballon, dès qu'elle le récupère, elle est capable de se projeter rapidement aussi. Donc c'est pour ça que pour moi, ça va être un très beau match, parce qu'on va avoir deux équipes, elles ne vont pas jouer à la baballe. Dès qu'on va récupérer, on va vouloir aller faire mal et essayer d'aller créer le surnom dans la défense adverse.
Jovan ?
Ouais, je voulais rebondir justement, ça permet de faire une petite transition sur une question que j'avais posée, Mika. Comment tu vis globalement la saison ou voir le passage de Xavi au Barça en tant que coach ?
Alors, tu sais que moi, j'ai été un des premiers défenseurs depuis toujours, hein. Notamment face à certains mecs de la commu, comment il s'appelle notre ami du Barça, là, analyste, et d'autres qui l'ont pris en grippe très tôt. Moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup défendu. Mais c'est vrai qu'après le match contre le Real Madrid, j'ai fait une vidéo en demandant son départ. Maintenant, je trouve que c'est bien qu'il parte parce que je trouve qu'il y a eu trop de mauvais choix dans lesquels il s'est entêté. Je trouve qu'il y a eu trop de choses aussi qu'il a voulu vraiment mettre en place et qui ne fonctionnaient pas. Il a voulu continuer dans ces choix-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs au niveau des changements. On a accepté et on sait qu'au Barça, le jeu prévaut limite même sur les titres. On a accepté que le Barça avait besoin de se reconstruire. On a accepté que le Barça ait gagné un titre l'année dernière en n'étant pas du tout flamboyant dans le jeu. Il y a eu cette idée à 4 milieux de terrain, mais qui réduisait énormément les qualités offensives du Barça. On a voulu repartir à 3 cette saison. Et finalement, moi, je voulais bien les excuses l'année dernière. Mais cette saison, même si tu n'as pas d'argent, tu te renforces quand même avec Félix, Gundogan et Cancelo. Et quand tu vois l'équipe sur le papier... Ah, très clairement, on a été encore beaucoup plus déçus du jeu. Et comme le jeu n'allait pas mieux, eh ben les résultats n'ont pas suivi non plus. Et pour cette saison en fait, du Barça devait être celle quand même de la confirmation après le titre, ouais, de l'année dernière. Et finalement, je trouve que cette équipe, eh ben, elle a progressé depuis le titre, voire même peut-être régressé. Et c'est là où je vois une limite à Xavi, malheureusement. Et qu'on ne vienne pas me dire, parce que beaucoup de gens étaient là à me dire... Ouais, Mika, mais désolé, on n'a pas l'équipe. Non. L'argument, on n'a pas l'équipe, moi, je ne veux plus l'entendre. Je suis désolé, mais tu prends le Rafinha d'avant le Barça, tu prends le Ferran Torres de City, tu prends le Félix à son prime, tu prends le Lewandowski du Bayern, Pedri, Gavi, Gundogan, De Jong, Araujo, Cancelo, Balde, Koundé. On ne peut pas me dire que cette équipe n'a pas le niveau d'un quart de finale, d'un dernier carré de Ligue des Champions. Je parle même avant la saison quand on fait le point. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la saison, on n'a plus la même vision sur les joueurs. Mais je parle vraiment avant la saison. Maintenant, si je dois juger Xavi en tant qu'entraîneur, bah, je vais quand même dire un grand merci. Voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Parce que très clairement, il m'a apporté des émotions folles. Il m'a réconcilié aussi un petit peu avec le jeu du Barça. Je me rappellerai à vie du Barça d'Adama Traoré, d'Aubameyang. Ce Barça-là qui m'a fait vibrer, qui mettait des tempêtes au Real, à l'Atlético, au Napoli. Xavi nous a ramené un titre. Xavi a permis aussi vraiment de réconcilier les supporters avec le Barça. Donc on ne peut pas cracher dessus. Et il est arrivé dans un contexte qui était tellement difficile Moi, je n'en voudrais jamais à Xavi. Oui, j'ai demandé son départ parce que je pense qu'aujourd'hui, ça ne suit plus. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire la fine bouche et je ne vais pas reconnaître qu'il a fait quand même un gros travail au Barça et qu'il facilitera énormément la tâche de son successeur.
Bah, surtout, je peux même ajouter, je pense que cette étape au Barça va lui être tellement bénéfique pour le reste de sa carrière en tant qu'entraîneur.
Aussi,
parce que t'arrives dans le club de ta vie, certes, t'as aucune expérience en Europe et t'arrives, on peut le dire, à relever ce Barça-là. T'arrives à le relever, t'es pas là à gagner avec des champions, certes. T'as une équipe, je pense, qui peut aller loin. Peut-être pas la gagner, on verra. Mais toute la pression que tu as, la galère économique où est le club, je pense que le prochain club où ira Xavi, il fera de très, très, très grandes choses. Parce que beaucoup aujourd'hui parlent, par exemple, de Xabi Alonso, mais ils oublient beaucoup qu'il n'y a pas cette pression-là qui touche au Barça, par exemple. Parce qu'on a beaucoup de gens qui te disent « Ouais, mais regarde Xabi Alonso ce qu'il fait, regarde Xavi, pourquoi ?» La pression. T'arrives dans un club, t'as des contraintes en plus de malade. Tu peux même pas acheter.
Il est fatigué aujourd'hui. Hein. Il le dit que la pression,
exactement.
Etc. Il le dit, hein, qu'il arrive à la fin d'un cycle, quoi.
Mais il sait ce qu'il
veut pas suivre qu'il entraînera directement après. Je pense qu'il y aura une petite période de repos.
Ouais. Mais il n'y a pas un club avec plus de pression que le Barça, de toute façon.
Ah non.
On le dit tout le temps. Les entraîneurs, ils repartent soit chauves, soit cheveux gris. C'est pas pour rien. Regarde Enrique à son arrivée, regarde Enrique à son départ, regarde Guardiola à son arrivée, à son départ. Regarde Valverde, il dormait sur le banc et tout. Il n'y a pas un club avec plus de pression. Quel coach fait plus de 3 ou 4 ans ici?
Mais non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que ce joueur-là, enfin cet entraîneur-là, était joueur et donc il a connu cette pression. Mais pour qu'il arrive aujourd'hui te dire.
C'est pas la même.
C'est pas la même. Je peux pas.
Voilà. Puis il était joueur. En plus, c'est chaud. Il était joueur il n'y a même pas 10 ans, tu te rends compte?
Quand t'es joueur, Mehdi, t'assumes tes erreurs individuelles. Là, Xavi, il a protégé son groupe, il a pris toutes les erreurs pour lui, même si ça venait de ses joueurs.
Exactement ce qu'avait fait Guardiola à l'époque pour lui.
Exactement ce qu'a fait Guardiola pour lui, et tout à fait. Et du coup, la pression est décuplée à un niveau impressionnant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit « Ouais, mais il sait la gérer, cette pression. » Oui, en tant que joueur, mais en tant que coach, c'est totalement différent. Donc,
Les médias espagnols et tout.
Moi, je l'ai toujours dit, Mika, je te rejoins 100% sur l'analyse. À l'époque, j'étais pas très favorable parce que ça m'embêtait de griller cette magnifique carte qu'est Xavi en tant que coach si rapidement dans un bourbier comme on était à l'époque quand il est arrivé.
On n'avait pas le choix,
il fallait un changement radical, il fallait un fusible aussi pour Laporta. Il te ramène Xavi, il achète sa tranquillité. Parce que Laporta, ça comme positive, je suis pro Laporta, il n'y a pas de souci, c'est génial, on a besoin d'enthousiasme, de positif, mais il faut aussi être réaliste et protéger ton coach. Parce que quand tu vends du rêve aux supporters, les attentes grandissent et ça crée de la déception. Aujourd'hui, on a de la déception sur des attentes qui n'étaient peut-être pas forcément légitimes, tu vois.
Une adéquation, surtout.
Ouais, tout à fait, ouais. Et là, on se retrouve à pouvoir jouer uniquement en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui est déjà bien, on va pas se plaindre. Mais quand t'es le Barça, je suis désolé, je m'attends à plus quand même.
Mais juste pour revenir par rapport au parallèle que t'as fait avec Xabi Alonso, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant, on en parle souvent. Pour moi, Xavi, comme il a dit Mika, moi je pense pas qu'il reprendra un club tout de suite. Mais le club qu'il va reprendre, je pense qu'il sera très chanceux. Parce qu'un Xavi sans pression, je pense que ça, c'est un très bon coach. Tactiquement surtout. Voilà, bon, son staff, après, on en reparlera, parce que pour moi, voilà, il y a beaucoup de problèmes avec ça, mais tu regardes ce qu'il faisait avec une équipe du Qatar, certes, c'est l'équipe du Qatar, donc forcément championnat qatari, donc voilà, on sait que c'est moins fort et tout, mais les joueurs, il leur fait faire des choses, tu l'as vu, on a tous vu les vidéos tiki-taka, nanana, enfin bref, voilà, c'était un peu, voilà, mais on a vu ce qu'il savait faire avec des joueurs, voilà, qui qu'on connaît même pas, tu vois. Donc, moi, je me dis, s'il prend une équipe sans pression, en fait, là, en fait, t'as un contraste. T'as le Barça qui est peut-être le club avec le plus de pression au monde, et à côté, t'as Al-Sadd qui est vraiment pas une pression pour lui, tu vois. Et tu vois ce qu'il fait avec les deux, tactiquement. Je me dis, lui, le prochain club qu'il va prendre, si c'est pas un immense club, tu vois, genre s'il reprend Liverpool ou je sais pas qui, tu vois, si c'est un club style bah, comme Leverkusen, tu vois, de cette trempe-là, je pense qu'il peut vraiment faire des dégâts, mais. Et t'auras beaucoup de gens qui retourneront leur veste comme ils l'ont toujours fait.
Mais Mika l'a très bien dit. Rappelle-toi du Barça d'Adama Traoré, d'Aubameyang, le Barça son arrivée en fait. Et là, il était sans pression. Et regarde ce qu'il est capable. Mais les émotions qui nous a offert, c'était magnifique.
Les émotions avec l'équipe de Lyon.
Et beaucoup vont retourner leur veste, tout comme aujourd'hui, beaucoup retournent leur veste sur Valverde. C'est toujours comme ça au Barça. On critique toujours à l'instant présent.
Pas moi, je te rassure.
Non, mais ça, moi non plus. Non, mais il y en a, ils arrivent.
On va pas me le faire dire.
Non, 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 en fait, Mika, dans le sens où tu as beaucoup Mika, aujourd'hui qui te disent « Ouais, mais regarde, avec Valverde, on gagnait. » Tu vois,
voilà, c'est beaucoup voilà, ça. Exactement.
Voilà. On a ce discours.
Il y en aura d'autres.
C'est ça. Après, je sais pas si c'est réellement retournant de veste. C'est juste.
Je pensais que c'est grâce à Valverde qu'on gagnait, mais bon, ça
sent. Ah non, c'est grâce à Messi.
Bien sûr que non. Bah oui. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils sont... les gens sont amnésiques, en fait. Parce qu'en fait, ils te voient, ils voient le Barça gagner, et donc ils te disent, ouais, mais ils gagnent, quoi. Et aujourd'hui, tu perds, oui. Mais en fait, ils regardent pas le contexte. Ils regardent pas qu'aujourd'hui, Xavi arrive à remonter ce Barça et arrive à gagner des matchs, gagner des titres, sans Messi. Et c'est le premier qui fait ça. Depuis maintenant, depuis 15 ans, tu vois. Et personne, ce facteur Messi, je trouve qu'il est super important, bien qu'il faut passer outre, tu vois. Au bout d'un moment, la page Messi, il faut la tourner, et je pense qu'on a réussi à la faire, tu vois. Mais ce facteur-là, aujourd'hui, de se dire, j'arrive à gagner, j'arrive à marquer aussi des esprits sans Messi, bah, pour moi, Xavi, c'est là où il a gagné aussi, surtout. Parce qu'il doit faire sans Messi, mais surtout aussi, on le répète jamais assez, aujourd'hui, sans Busquets. Et c'est des choses qu'on a, nous, en tant que supporters du Barça, on a pratiquement jamais vu le Barça jouer sans Messi ni Busquets, tu vois. Et c'est des choses, pour moi, qui sont super importantes. Et je pense qu'on oublie de les mentionner trop souvent maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, notamment Mika, toi.
Ah, mais écoute, ça t'as entièrement raison de le dire. De toute façon, on savait qu'en plus de tous les soucis qu'a eu le Barça, causés par Bartomeu et avant par la présidence Rosei, on sait très très bien que déjà que c'était compliqué de se relever, et en plus de ça, qu'il y a eu le départ de Messi. Parce que s'il n'y avait pas eu tout ça, à l'heure actuelle, Messi serait encore au FC Barcelone, ou peut-être serait parti juste cette saison, tu vois, à l'Inter Miami, mais l'épisode PSG n'aurait jamais existé. On redoutait énormément ce départ, mais en fait, le Barça a tout eu en même temps. C'est-à-dire que la situation économique a tellement plongé le club dans une situation catastrophique. Elle a aussi dû accélérer le départ de Léo Messi. Et ça aussi, on voulait que ce soit le plus tard possible au Barça pour pouvoir s'en relever. Donc au final, le Barça a connu une période où il a fallu se relever et de la situation économique et du départ de ton meilleur joueur depuis 15 ans. Il porte ton club, donc habitué tout le monde, ton staff, tes dirigeants, même tes cuisiniers à travailler différemment. Et au final, c'est pour ça que ça a été très très compliqué pour le Barça. Et c'est pour ça que même si j'ai demandé le départ de Xavi aujourd'hui, je ne crache absolument pas
sur ce qu'il
a fait, parce qu'il a été capable de replacer en tout cas le Barça dans les places fortes. Il nous a ramenés en Ligue des Champions, il nous a ramenés dans les 8 meilleures équipes européennes, il nous a refait gagner un titre, même deux. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de le voir.
Mais surtout, un truc qui est...
Je te remercie vraiment d'avoir fait tout ça, mais je suis d'accord avec toi. Évidemment que la perte de Messi, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais l'arrivée de cette Masia aussi, celle qui a fait en sorte qu'on a pu très vite oublier Ronaldinho, qu'on pourra peut-être oublier Messi, ça je dis entre guillemets, on l'oubliera jamais, mais en tout cas sur le terrain, d'essayer d'avoir des joueurs qui nous font un peu penser qu'on peut avoir d'autres personnes, et puis les joueurs ne sont jamais éternels, voilà, Messi ça fait quand même, il a donné 20 ans de bonheur au Barça, et je pense qu'aucun autre joueur donnera autant d'années de bonheur à ce club-là, donc on peut qu'en être reconnaissant, et espérer aussi voilà, que par la suite, on n'aura pas d'autres Messi, hein. Faut pas se voiler la face, mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas encore conçu le nouveau Messi, mais voilà, en attendant, on va quand même attendre de voir, mais on a quand même en tout cas d'autres beaux joueurs qui peuvent nous apporter de beaux jours devant nous.
Mais surtout, ce qui est fou, c'est que les problèmes économiques étaient tels qu'en fait, elles ont amoindri l'effet du départ de Messi. En fait, t'as l'impression que tu te rendais plus compte que Messi n'était plus là, tellement que le problème principal était tellement plus gros que ça, alors que le départ de Messi. C'est ça qui est fou, t'as vu ?
Ouais, oui, parce que quand tu vois la saison qui suit, j'en ai parlé tout à l'heure, la saison qui suit le départ de Messi, mais début de saison. Non, le début, je te parle. Quand on est 11e,
ouais, elle est catastrophique. Non, mais elle est folle.
Quand tu démarres avec Griezmann, Coutinho, Luc de Jong, Depay devant, ou je sais plus qui devant. T'avais Coutinho qui était blessé, je crois. Tu démarres avec un 11, mais il est ignoble. Mais je me dis, mais t'as même pas le temps de penser à Messi là, en fait. Enfin, t'y penses en te disant, mais pourquoi il est plus là. Mais c'est tout. Genre, t'as tellement d'autres problèmes à ce moment-là que le 11, il est. Mais j'aime. Faut que je le retrouve. C'était une folie. T'avais trois joueurs axiaux, je crois, un truc comme. Griezmann côté gauche, oh là là.
Et je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais commenté ce match sur Twitch. Et si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est un vieux match nul contre Cadix.
Oui,
C'est ça, je crois. Et t'as un Fati qui joue pas parce qu'il est déjà blessé. Fati est déjà blessé à ce moment-là, Dembélé aussi. Ouais, t'as Dembélé et Fati qui sont déjà blessés en début de saison. Enfin, c'est un cauchemar, genre, vraiment. Il n'y avait rien à manger.
Non, mais c'est vrai que en fait, on a enchaîné toutes les galères en même temps. Tu l'as très bien souligné, Mika. Parce que même au-delà du problème sportif, enfin, des problèmes économiques, départ de Messi, aujourd'hui départ de Busquets, mais t'as un problème physique au Barça. En fait, tu perds tous tes joueurs, tous à la fois, tous en même temps, tous aux périodes les plus importantes. Enfin, tu te dis, mais quand est-ce que ce club-là va commencer à se. Enfin, quand est-ce qu'il y aura une bonne étoile avec ce club-là? Moi, je pense que ça arrivera bientôt, comme vous savez, mais vous connaissez un peu mon opinion, Gurvan et Bédard, parce que je suis complètement dingue, Mika. Moi, je pense que le Barça va gagner avec des champions. Voilà, je te le dis. J'ai un pressentiment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où il me vient. Gurvan me dit que je suis complètement dingue, mais Bédard aussi, beaucoup d'autres me disent que
la
je suis dingue.
La statue de Xavi sera devant le Camp Nou, ça, c'est une certitude.
Ah bah, je me promène tout nu à Barcelone, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je serai le premier à y aller. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce... Qu'est-ce que tu Bédard?
Je t'accompagne sans problème. Hein. Franchement, si on regarde la Ligue des Champions avec ce niveau-là.
Je vais te dire la vérité. J'étais sur un space parisien tout à l'heure. Ils ont ouais. Le même pressentiment. En fait, j'ai l'impression que toutes les équipes de cette partie de tableau vont avoir ce pressentiment. Voilà, parce que c'est vrai que tu as évité les quatre équipes, on va dire, les plus dangereuses peut-être. Mais au-delà de ça, tu vois, eux, vous dites ça en mode pour le départ de Xavi, imagine, il devait partir, il va la soulever. Les autres, Mbappé est devenu l'ennemi public. Le seul moyen de partir en héros et d'être l'immense légende du Paris Saint-Germain et de partir en la ramenant. L'Atlético, ce serait le couronnement ultime de Cholo Simeone. Et Dortmund, la surprise du chef que personne n'attend. Mais pour le couronnement de Marco Reus en tant que légende du club. Donc voilà, enfin, chacun va se faire son interprétation, tu vois. Voilà. Bon, ouais, j'avoue, Dortmund, je l'ai poussé un petit peu, mais voilà, en gros, voilà, ils ont tous vraiment cette envie-là, tu vois. Ils ont, et je peux comprendre chaque supporter. Non, ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, si vous me demandez mon avis, je pense que c'est une équipe de l'autre côté qui remportera la Ligue des Champions.
Oui, il y a des chances sur 10 qu'on soit une équipe de l'autre côté. Hein. Il faut parler français. Ouais, t'es gentil.
Ah bah si, non, bah si, parce que les deux équipes vont tomber sur une finale, et sur une finale, tout est possible. Donc,
ouais, mais
moi, l'année dernière, l'année dernière, n'est pas forcément plus. Hein.
Tout est possible exactement. Sur une finale, mais bon, il y a des chances quand même, il y a des pourcentages, je pense qu'il y a un pourcentage Barça-City, même en finale, c'est un 95-5. c'est pas un 50-50.
Hein. Je suis en train de réaliser ça, mais en fait, ça fait beaucoup de coachs espagnols dans le dernier carré, là. J'avais pas...
T'as la quête du Barça, en plus, hein.
C'est énorme, ouais, c'est beau pour le football espagnol, je trouve.
Ouais. Bah même d'avoir le Barça, Real Madrid, l'Atlético de retour, tous les trois en même temps en quart de finale, c'est pour une Liga qui a été beaucoup décriée ces dernières années.
Il y a un concours de circonstances.
Ouais,
on a un concours éclaté, on a un huitième éclaté aussi.
Bien sûr, mais l'année dernière, quand c'est des équipes italiennes aussi, tu vois, il y a. C'est pas le
ah
même.
Ah non, mais moi j'ai toujours dit que le parcours de l'Inter, si on passe à la place de l'Inter, pour moi, on peut faire leur parcours, tu vois. C'est pas ouais, c'est, je veux dire mais on est capable de sortir aussi parce que je crois qu'il joue Porto ou Benfica, je sais plus.
Après, il faut les deux.
Ouais, non, voilà,
Porto, Benfica Porto, bref.
Ouais, voilà, tu vois, donc oui, il joue le Milan en demi, voilà, c'est ça. Donc, on peut sortir contre les trois aussi, tu vois. Donc bon. C'est possible avec ce Barça.
Mika, dernière question. Je vais revenir sur ce duel-là. Peut-être qu'on va voir, je ne sais pas. Indépendamment du positionnement du joueur, Araujo Mbappé, est-ce que ce n'est pas le moment pour Araujo de briller aux yeux du monde?
Attends, vous m'entendez?
Ouais, t'entends.
Ouais, super. Ah bah ça, c'est une évidence. Mais après, bon, c'est pas de briller aux yeux du monde, parce que je pense qu'Araujo a pas attendu cet événement avant de se montrer comme un défenseur assez exceptionnel par rapport aussi à son jeune âge. Je crois qu'il a 23 encore, ou peut-être 24. Non, c'est vrai qu'il commence à avoir quand même, à rentrer un peu dans la fleur de l'âge. Mais c'est un défenseur qui est très bon. Il sera pas au marquage individuel s'il joue en défense centrale sur Kylian Mbappé. Par contre, oui, il va avoir cette tâche, je pense, de lui rentrer un peu dans le lard physiquement. Attention à pas provoquer des choses. Mais je pense que pour Mbappé, ça va surtout se faire sur des prises à deux. Je pense pas qu'aujourd'hui, il va y avoir un joueur sur Kylian Mbappé. Je pense qu'on va être plus sur le marquage en zone du côté de la défense du Barça. Surtout qu'il est tellement imprévisible que ça va être dur à prendre. Et surtout qu'il y a un très gros danger aussi de l'autre côté. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Mais je pense que Ronald Araujo va être très important dans le domaine aérien. Parce que Mendes, Hakimi, si on va essayer de bloquer les transitions sur les côtés, c'est les joueurs qui vont tenter du coup beaucoup plus de centres. Donc on va attendre vraiment Araujo dans le domaine aérien, sur les corners également. Surtout s'il y a du Danilo qui peut rentrer. Et qui est aussi très intéressant dans ce domaine-là. Maintenant, Araujo, voilà, il a aussi une Copa América où l'Uruguay va faire partie des favoris, où il va pouvoir montrer de quoi il est capable. Mais moi, c'est surtout, au-delà d'Araujo, c'est vraiment encore plus cette association avec Kubarsi que j'ai envie de voir. Et je pense que c'est surtout l'association qui va pouvoir faire mal aux attaquants du PSG.
Complètement d'accord. Pour Kubarsi, j'ai très hâte de le voir sur ce match-là. Il sort d'un mois complètement fou avec le Barça. C'est moi, j'en parlais déjà avec un ami à moi. Il me fout des frissons, le joueur. C'est honnêtement, à 17 ans, faire ce qu'il fait sur un terrain de foot, c'est quand même hallucinant.
Lewandowski l'a dit, tu vois.
C'est dingue. Hein. Non, mais je trouve ça. La bonne étoile, comme je disais tout à l'heure, est peut-être là, en fait, au final. C'est peut-être tous ces jeunes-là qui te sortent comme ça en même temps.
L'espoir du Barça aujourd'hui, c'est la Masia, on l'a dit en début d'émission.
Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Médard, tu voulais intervenir ?
Ouais, non, c'était juste pour ajouter juste une petite donnée par rapport à ça. Je suis le mec de Canal+. En vrai, il y a un truc dont on ne parle pas. Il y a un truc dont on ne parle pas, dont on n'a pas parlé plutôt. Araujo, il est sous le coup d'une suspension aussi. Face à Mbappé, je vois aucun monde où Araujo il prend pas un jaune et il joue le match retour. J'espère vraiment qu'il le fout pas à droite. Enfin, surtout avec les matchs de Koundé récemment. D'ailleurs, j'ai vu des conneries sur lui à cause de ses matchs en équipe de France. Au lieu de se dire que Deschamps est un terroriste, il préfère dire que Koundé est nul à droite. Mais bon, nous on voit les matchs, donc on voit. J'espère vraiment qu'il ne le fout pas à droite pour essayer de gérer un potentiel Mbappé ou quoi. Parce que.
C'est une grosse erreur, ça.
C'est une très grosse erreur parce que comme déjà, il va devoir courir en transition. Mais oui, mais déjà, premièrement. Et puis, alors, on l'a vu, il n'a pas les cannes. C'est-à-dire qu'il court vite, c'est bien et tout, mais son corps, il n'est pas fait pour ça. Donc, il se blesse souvent. Et en transition avec Mbappé, déjà, il ne va pas le rattraper, premièrement. Et puis, même s'il le rattrape, ce sera avec une faute. Et on connaît ces fautes-là, c'est jaune. Donc il faut absolument pas ça. Je pense que moi il peut le gérer s'il joue numéro 9, mais Mbappé est vraiment jamais vraiment 9, tu vois. Donc je pense qu'il peut le gérer à ce niveau-là, mais voilà. Après ça reste Mbappé, tu vois, il peut être mauvais, on l'a vu en finale, hein, il peut être mauvais en finale de Coupe du Monde, il peut être mauvais 80 minutes et te foutre un triplé. Donc moi il me fait très peur ce joueur, il me fait très très peur. Mais Araujo il peut vraiment s'affirmer comme un top mondial. Au vu aux yeux des gens, généralement, et pas qu'à nos yeux à nous, parce qu'on a tendance à beaucoup en faire, tu vois, selon les gens. Donc, il peut vraiment s'affirmer comme un top mondial, mais il faut qu'il gère son match, parce que vraiment, si on l'a pas au retour, lui, j'ai très, très peur.
Ouais, complètement. Après, on va voir hein, ce que l'avenir réserve au Barça et au PSG. Les gars, je voulais vous remercier pour cet épisode. Merci Mika d'avoir participé. Ça fera un grand plaisir de te revoir encore sur des prochains numéros, notamment peut-être sur la saison prochaine où on passera peut-être sur YouTube. En tout cas, merci. Ça me fait super plaisir de t'avoir en tout cas.
Et plaisir partagé, toujours un kiff d'être avec vous. Super. Merci encore pour la joie, la bonne humeur et la beauté du contenu.
Oh, c'est gentil. Oh, bah, je vais en profiter pour dire merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent chaque semaine, toujours plus en plus nombreux. Donc, merci à vous, merci du soutien. Et on vous lâche pas. Gurvan, un mot pour la fin ?
Bah, un grand merci à Mika d'avoir répondu à l'invitation. Bon, même si je m'en doutais que la réponse aurait été favorable parce que les liens qui nous unissent depuis un moment maintenant sont forts, toujours solidaires pour donner de la force. Mais c'est toujours mieux de répondre par des actes et tu l'as fait, donc un grand merci à toi. Plein de bonnes choses pour tout ce que tu vas entreprendre. Tu sais très bien qu'on te kiffe énormément depuis le début et puis continue de nous régaler et de revenir dès que tu peux sur l'émission.
va me faire pleurer. Merci beaucoup, mon
Oh là là. Oh là là, il va chialer. On va faire chialer Mika. Oh là là. En tout cas, les gars, merci à vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Mess K-Un Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.